Stop, c'est parti. Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
C'est le dernier instant M de la semaine. Il est 9h40 sur France Inter.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous voulez me spoiler?
Le spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Elisabeth Martichoux, elle était l'intervieweuse politique de la matinale de RTL. Elle en fut écartée en juin après 3 saisons et un prix Calonie qui récompense, figurez-vous, les meilleurs questionneurs du PAF. Le patron de l'info de la station s'en est expliqué. La politique politicienne a fait son temps. Je ne me mêle pas de ce qui se passe dans les rédactions amies et concurrentes, mais cette phrase, livrée dans la presse, a retenu mon attention. Veut-il dire que les responsables politiques font indécrottablement passer leurs intérêts politiques, c'est-à-dire leurs intérêts électoraux avant le bien commun, ou que les journalistes politiques échouent à en tirer quelque chose qui intéresserait tout le monde? Quid en effet de cet exercice, l'interview politique en 2019? Bilan et perspective avec Elisabeth Martichoux qui persiste et signe sur LCI.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Elisabeth Martichoux.
Bonjour Sonia, ravie d'être chez vous sur France Inter.
Eh ben nous aussi, ravie de vous recevoir, vous qui êtes l'ancienne dame de RTL que du coup on ne pouvait pas inviter à l'époque. On vous retrouve donc tous les jours dans la matinale de LCI présentée par Pascal de la Tour du Pin à 8h30 sur cette chaîne d'info. Je précise que vous avez commencé, je l'ai découvert d'ailleurs, vous avez commencé ici, vous avez commencé à France Inter.
Mais oui, je suis sortie de l'école, de journalisme, je suis arrivée à France Inter.
Et c'était
voilà.
Vos premiers pas de radio.
Exactement, voilà. Mon premier pas. De journalisme et la radio que j'adorais.
Voilà, et vous avez une double casquette à la télévision, c'est relativement rare, donc je le raconte, vous présentez une fois par mois État de Santé sur la chaîne parlementaire et l'émission reprendra à la fin du mois de septembre. Après un merveilleux été au cours duquel est né un merveilleux petit poulain, retour de la semaine médiatique de Bruno Donnet. Ça va Bruno?
Bonjour Sonia, ça va très bien, merci.
Voilà, juste le temps de renouer avec notre instant Madeleine du vendredi et vos messages, souvent très jolis, qui vont avec. Toujours le même principe, vous le savez. Le premier qui envoie la bonne réponse à cette adresse, l'instant M, tout attaché, l'instant M à radiofrance.com, remporte un cadeau. Voici la question du vendredi matin. Qui était donc cette animatrice qui rêvait de cinéma?
C'est peut-être l'étape prochaine de ta carrière, le cinéma?
Honnêtement, qu'est-ce qu'on va proposer à une animatrice blonde, divertissement, de super intéressant? C'est rare quand même. C'est bien normal, un film porno peut-être, mais j'attendrai encore un peu de temps.
Elle est blonde, mais elle a un nom. L'instant M at radiofrance.com. Vous avez une Madeleine, vous, Elisabeth Martichoux, un souvenir de radio, un souvenir de télé qui vous a marqué?
Oh, un souvenir indélébile, c'est les pièces de théâtre sur France Inter quand j'étais petite.
Ah oui?
Ouais.
Donc vous étiez auditrice de France Inter, petite?
Oui.
Décidément!
Ouais. Pas que de France Inter, mais ouais. Les pièces de théâtre, c'était sur France Inter.
Les
et il
n'y
a rien de plus emblématique qu'une pièce de théâtre pour dire tout ce que l'imaginaire fait avec le bruit qui arrive dans les oreilles.
C'est ça, avec les ondes. Bruno Donnet, le micro est à vous.
Merci, vous n'avez pas de lancement en fait, c'est ça?
Si, lundi midi, vous êtes tombé sur Scotch Cuisine Extra Forte, une émission de cuisine diffusée en clair sur Canal+, et vous avez eu, comment dire, une révélation?
Eh ben, c'est exactement voilà. Ça Sonia, j'ai réalisé grâce à Canal+, combien les programmes de cuisine étaient en fait un formidable révélateur de l'identité des chaînes qui les diffusent. Une sorte de parabole tout à fait saisissante que l'on pourrait résumer en ces termes, dis-moi quelle émission de cuisine tu proposes et je te dirai qui tu es. Je vous explique. Allez, prenez TF1 par exemple. En matière de cuisine, le format qui est désormais le mieux exposé, c'est un programme court, il s'appelle Petit plat en équilibre, ça dure 2 minutes, diffusé juste après le 20h, et à la fin de chaque épisode, son présentateur nous dit ceci.
Vous pouvez tenter de gagner 3000 euros par mois pendant 20 ans. 720 000 euros au total.
Donc, et bien donc, au détour d'un petit programme de tambouille, TF1 nous rappelle qu'elle est une chaîne commerciale, car pour décrocher la timbale, faut quand même envoyer des SMS surtaxés, mais aussi qu'elle est une chaîne leader à la puissance colossale, puisqu'elle est capable de nous offrir plus de 700 000 euros. Sur France 3, on nous sert La Cuisine de Julie, un magazine dans lequel l'animatrice se promène, certes, mais pas n'importe où.
Bonjour Julie. Bienvenue dans notre Haute-Savoie.
Bah oui, elle part à la découverte des spécialités régionales, l'occasion de bien asseoir que France 3 est la chaîne des régions. Enfin, sur M6, on se fait copieusement engueuler. Pourquoi ?
Tu peux me répondre, là, s'il te plaît ?
Eh bien, parce qu'après nous avoir montré des gens soi-disant mal fringués dans les rênes du shopping, des maisons moches que Stéphane Plaza doit impérativement ripolliner avant de pouvoir les vendre, la chaîne creuse un sillon qui lui a réussi parfaitement en termes d'audience, un petit côté montreur d'ours qui l'a conduit à dépêcher Philippe Etchebest dans les cuisines les plus dégueulasses de la création. Bien, et sur Canal+, alors, qu'est-ce que propose la chaîne qui a révolutionné la réalisation des matchs de foot, celle qui a dépoussiéré l'humour en créant les guignols et qui a inventé en France le talk show à midi avec la grande famille dans laquelle un certain Jean-Pierre Coff causait déjà, tiens, deux cuisines. Eh bien, elle diffuse un bidule qui dure 20 longues minutes, incarné par un ancien candidat de Top Chef. Un gars qui commence son programme à la terrasse d'un café en lisant un journal et qui a un avis très nuancé et pas populiste pour de rond sur la presse.
Voilà, les conneries qu'on peut lire dans ces putains de journaux.
Un garçon qui maltraite le français presque autant que les oignons.
N'oublie pas les deux grappes de tomates que je t'ai parlé.
Voilà, les deux grappes de tomates que je t'ai parlé. Qui passe sa vie à nous tutoyer alors qu'on ne lui a rien demandé.
Tu prends une carotte, un oignon, prends une échalote. Et tu vas me prendre un peu d'ail aussi, mon gamin.
Et tout ça pour nous apprendre à faire quoi ?
Des pâtes à la sauce tomate.
Bref, c'est aussi indigeste qu'un pudding au parpaing. Ça sent méchamment le réchauffé et on ne comprend absolument pas à quel public ça peut bien s'adresser. Pour autant, ça illustre tristement bien combien cette chaîne naguère si créative a totalement perdu la main. On lui souhaite donc de se retrouver dardard des chefs mieux inspirés et capables de nous remitonner des programmes aux petits oignons. Voilà Sonia, ce sera tout pour aujourd'hui. Je reviens vous voir dans 8 jours ou plus tôt, comme on dit désormais sur Canal+.
Je te retrouve la semaine prochaine, comme d'hab. Toi dans ton putain de canapé et moi dans ma fucking kitchen, mec.
Allez, bonne journée.
Avec obligation de terminer toutes vos chroniques par cette phrase, mon cher Bruno Donnet, à réécouter sur franceinter.fr. Ma chère Émilie, fidèle auditrice et très rapide que vous êtes, je vous offre Jean-Pierre Luminet, chronique de l'espace. Jean-Pierre Luminet, c'est un grand astrophysicien qui a partagé son savoir cet été avec nous sur France Inter. Vous avez reconnu Virginie Efira. Eh ben oui, elle a tellement bien réussi au cinéma qu'on a fini par oublier qu'elle a été animatrice télé.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Elisabeth Martichoux est donc mon invitée pour sa rentrée, sa toute nouvelle rentrée sur LCI. Je rappelle qu'elle était l'intervieweuse matinale de RTL aux côtés de Yves Calvi, qu'elle a été aussi le visage et la voix de l'émission dominicale politique Le Grand Jury, et puis qu'elle s'est fait remarquer la presse, on a beaucoup parlé, les réseaux sociaux, lorsqu'elle a posé des questions au cours des débats des primaires de la présidentielle. Tout le monde c'est vrai, ça avait marqué le public le lendemain.
Alors, Jean-François Copé, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez supprimer l'ISF, que paient 342 000 foyers, mais vous voulez aussi augmenter la TVA de 3 points. Donc, vous faites ce cadeau, comme on dit, certains, aux riches, et par ailleurs, vous accablez tout le monde d'une hausse de 3 points de la TVA, y compris les plus modestes.
Vous allez un peu vite, si je peux me permettre.
Ça, c'est du Martichoux dans le texte. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, Jacques Esnoux, directeur de l'info de RTL, a dit dans le JDD, la politique politicienne a fait son temps. On nous demande d'être plus en adéquation avec les questions que se pose notre société. Et moi, je me suis posé la question, ça veut dire quoi? La politique politicienne a fait son temps. Ça veut dire que les politiques, au micro, sont toujours des politiciens qui politicardent et qui grouillotent dans les intérêts de leur parti ou de leur carrière, ou ça veut dire que c'est un échec de l'interview politique, le vôtre peut-être, ou de l'exercice en lui-même.
Non, ça veut dire... Alors, je ne peux pas répondre à la place de Jacques Esnoux,
votre ancien patron.
Mon ancien patron, voilà, d'une radio pour laquelle j'ai énormément d'estime et où j'ai été très heureuse. Voilà, c'est dit. Je pense que l'interview politique est de salubrité publique. C'est un exercice salutaire pour la démocratie. Ça permet l'interview politique d'éclairer évidemment une action publique et de pousser ceux qui décident pour nous, ceux qui nous gouvernent ou ceux qui prétendent le faire, de les repousser dans leur retranchement. Alors, politique politicienne, ça veut dire que on est amené parfois, ou les politiques parfois, pour ne pas répondre, hein, qui font du commentaire, essaye d'esquiver les questions et finalement sont des commentateurs de la vie politique au lieu d'être ce qu'on leur demande d'être, c'est-à-dire ceux qui décident mais surtout qui élaborent, qui
donc
imaginent,
c'est l'échec
etc.
de l'intervieweur. de ne pas arriver à les faire sortir.
Ah bah quand on n'arrive pas à faire sortir un politique, ou quand on n'arrive pas à faire comprendre à celui qui regarde ou qui écoute que l'interlocuteur ne répond pas à une question, c'est l'échec de l'interview. Mmh. Mais la grandeur et la noblesse de l'interview politique, c'est précisément d'arriver à ça.
Alors on va en parler cette exigence. Est-ce que l'interview politique passe nécessairement par l'interview d'un homme ou d'une femme politique? Je m'explique. Mmh. Il y a d'autres rendez-vous politiques du PAF qui n'ont pas abandonné la politique. Je pense par exemple à l'émission de Karim Rissouli, C'est politique sur France 5, mais qui choisissent de traiter la politique sans invité politique. Et par ailleurs, il y a de plus en plus de rendez-vous de sociétés dont les sujets se sont énormément politisés ces dernières années.
Oui, Karim Rissouli s'intéresse à l'action publique. Mm-hmm. Et effectivement, il va plutôt vers des experts, ceux qui ont observé la façon dont ça s'élabore et qui peuvent porter une évaluation. C'est intéressant aussi, c'est complémentaire, ça n'est pas la même chose. Mm-hmm. Ça, il faut absolument, dans une démocratie, avoir en face de vous ceux qui décident ou ceux qui prétendent avoir la possibilité de le faire et leur demander pourquoi, comment, quand. Les questions fondamentales du journalisme qui, en fait, aident les personnes qui écoutent ou regardent à comprendre ce qui se passe, à comprendre et à ne pas se laisser berner par la communication ou l'image qu'ils veulent en donner. Voilà, c'est toute la noblesse de l'interview politique.
Dernière question sur la matinale de RTL. Vous avez cohabité à l'antenne toute la saison dernière, c'est-à-dire pendant les européennes, avec la chroniqueuse et spécialiste de l'écologie Isabelle Saporta. Or, à la fin de la saison, le grand public découvre qu'elle est la compagne de Yannick Jadot, le candidat des écologistes, dans la vie. Et puis, elle démissionne d'RTL. Quel était le problème? Est-ce que RTL ne le savait pas? Est-ce que vous, chef du service politique de RTL, vous l'ignoriez? Ou est-ce que être la compagne d'un homme politique et chroniqueuse dans une matinale d'info, c'est déontologiquement incompatible?
Ça l'a été, je pense, un moment. Moi, je l'ai découvert après qu'elle a commencé, mais mm-hmm. pas au moment où elle a été remerciée. Donc, progressivement, tout le monde l'a su. Et c'est quand c'est factuellement quand c'est devenu public et quand Jadot a fait son score extraordinaire aux européennes, RTL a décidé que ça n'était plus compatible. Est-ce qu'ils auraient dû anticiper?
Dont acte. Vous passez de la radio donc à la télévision. LCI est une chaîne assez peu regardée le matin, une centaine de milliers de téléspectateurs. Le match, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la reprise. La capacité d'un média à exister en étant repris par les autres médias. Il faut donc pour cela obtenir une déclaration, une phrase choc. C'est un exercice dont généralement les journalistes politiques prétendent répugner. Sauf Jean-Michel Apathy, qui est le seul à assumer. Et vous?
Vous me demandez si je suis obsédée par la reprise.
Oui, et comment on s'y prend ?
La réponse est non. Mmh. La réponse est non, parce que si on fait que s'intéresser à la reprise...
À
la petite phrase, on passe à côté de la conception que j'ai de la politique et que LCI a aussi, qui est d'aller quand même le plus possible, alors dans un temps quand même formaté, 20 minutes, mais le plus possible, essayer de comprendre ce qui se passe.
Le double de ce que vous aviez sur RTL.
Alors le double, quel bonheur. Mmh. 10 minutes, c'est un exercice de style intellectuellement intéressant, mais c'est très frustrant. Mmh. 20 minutes, vous commencez à pouvoir aborder plusieurs sujets sans faire des impasses et en posant plus de questions, c'est sympa. Mais sinon, sur la reprise, si vous voulez, on est dans un monde que vous connaissez, c'est-à-dire que on a besoin d'être de plus en plus, on veut être évidemment écouté, regardé. Pour ça, il faut avoir de la visibilité. Et la visibilité, elle passe aussi par le fait que vous avez des reprises. Mmh. Mais les téléspectateurs qui nous regardent sur LCI, ils ne sont pas obsédés par la reprise. Ils sont obsédés par est-ce que lui, il m'intéresse? Est-ce qu'il va m'informer? Est-ce qu'il va m'apprendre des choses?
J'ai compris.
C'est ça,
justement,
d'abord.
Les téléspectateurs vous regardent. Sur RTL, vous n'étiez pas filmée, Elisabeth Martichoux. Mmh. Vous êtes devenue même un personnage assez comique des zappings de l'émission quotidien parce qu'on voyait seulement votre stylo qui s'agitait dans l'air. Là, à la télé, 20 minutes de face à face, tout est filmé. L'interview, c'est aussi beaucoup une question de regard. N'est-ce pas? C'est une personne qui ne lâche pas des yeux, comme je le fais là en ce moment, son interlocuteur. Et finalement, il y a des regards qui en disent plus que parfois des mots.
Oui, ça change rien, hein, la télé, par rapport à ça.
Bah, ça change qu'on voit votre regard.
Ouais, on le voit,
on
mais,
voit vos mimiques,
mais voilà,
on voit c'est ce la... que dit votre visage, bah, ouais, même quand votre bouche ne prononce pas le mot qui va avec.
C'était le même regard, et effectivement, je vous regarde aussi, on se capte, ouais, on se regarde, capte. On se parle par le regard. Mm. Alors, je sais pas, je fais des œillades, il y a un truc qui va pas.
non, pas mais
effectivement, en télévision, en plus, il y a proximité physique.
Il y a un ingrédient dramaturgique en plus, bah, vraiment, pour l'interview. Politique.
Bien sûr, mais je veux dire, c'est pas joué. Mm-hmm. On n'est pas dans le théâtre. On est simplement dans l'interactivité. Et le regard est fondamental. Radio, télé, c'est pareil. Je me suis posé la question d'ailleurs au début, la première interview sur LCI, je m'observais, ce qu'il faut que je fasse les gestes avec le stylo, ce qu'il faut que je regarde, etc. Et Fabien Namias et Thierry Tullier m'ont dit,
vos patrons.
Très franchement, mais oui, patron d'LCI, m'ont dit, mais fais comme en radio. Mm-hmm. Ne te frustre pas de une interview radio, une interview télé. Ce qui nous importe, c'est le contenu.
C'est le contenu. C'est,
voilà.
Alors,
donc voilà. Donc
là,
je fais pareil.
Face
je regarde.
À Jordan Bardella du Front National sur RTL.
C'est faux.
Ah ben,
voilà.
Attendez,
c'est faux.
Reprenons les textes.
C'est
si
faux. Non mais vous êtes en train de faire la publicité des textes du Parlement européen qui n'améliorent en rien que ce soit la lutte contre l'évasion fiscale.
C'était pour améliorer la transparence sur les politiques d'impôts sur les sociétés
mais Madame
en Europe.
Martichoux, ce que vous dites est faux. Hein et d'ailleurs, l'impossibilité, l'incapacité. Et d'ailleurs,
non, mais, attendez, est-ce que c'est faux que vous avez voté contre ce texte?
Est-ce que vous allez me laisser parler ou est-ce que je vais devoir m'en aller de ce plateau? Parce
non,
que là,
mais,
non mais très objectivement, ça commence à devenir pénible. Je suis pas venu devant un tribunal médiatique ce matin, donc soit vous me laissez répondre. À vos questions.
Non,
absolument pas. Donc, soit vous me laissez répondre à vos questions, soit je m'en vais.
Vous êtes manifestement à ce moment-là sûr de votre fait, Elisabeth Martichoux, lui aussi. Quand est-ce qu'on décide de le lâcher ?
Bonne question. Il faut bien évaluer le moment où l'auditeur aura compris. Et à ce moment-là, il faut lâcher l'auditeur, des spectateurs, il faut lâcher la personne qui, de toute façon, Jordan Bardella, il connaissait pas son dossier. Mmh. Il ne savait pas, en l'occurrence, je m'en souviens très bien, que le FN, à l'époque, au Parlement, avait voté un certain nombre de fois non à ce texte. Il ne le savait pas. Il se présentait à la députation européenne tête de liste, il ne savait pas ce qu'avait fait le groupe pendant le mandat précédent. C'est quand même spectaculaire. Et donc, moi, j'ai bien compris qu'il ne savait pas, qu'il délayait, qu'il esquivait, etc. Et il y a un moment où il ne faut pas se transformer quand même en une espèce de roquet. Au moment où vous estimez que la personne qui vous regarde, vous écoute, a compris, c'est ça le but. Mm-hmm. Et bien, vous lâchez.
Alors, il y a le fait que vous savez et que vous êtes sûr de savoir. Et puis, il y a ce qui est apparu ces dernières années, ce qu'on appelle le fact-checking. C'est-à-dire des journalistes ou simplement parfois des téléspectateurs qui, grâce aux réseaux sociaux, font tourner des rectifications et le font également dans la presse. Qu'est-ce que ça a changé ? Parce que souvent, ça pointe les faiblesses de l'interviewé, mais ça peut aussi pointer les faiblesses de l'intervieweur qui, sur le moment, n'a pas su rectifier ou s'est fait prendre au piège.
Qu'est-ce que ça a changé? C'est une question individuelle. Où vous travaillez avant? On peut pas tout savoir, effectivement. Et il y a des moments où on a aussi des trous d'air, ça peut arriver, on peut être distrait, etc. Ça a changé, je dirais rien. Vous travaillez l'interview à votre rythme, vous le faites plus ou moins. Je ne pense pas que ce soit une pression particulière. Ouais. Pour nous, je pense que c'est une pression singulière et très utile, effectivement, pour celui qui porte la parole publique.
Est-ce que vous diriez néanmoins que l'interview politique est devenue plus technique qu'elle ne fut ?
Bien sûr. D'abord, il est l'interview politique. Moi, je suis consternée quand j'entends les gens qui disent « Oh là là, c'était mieux avant, on a beaucoup perdu dans le journalisme politique, etc. » Mais écoutez les interviews dans les années 70-80,
ouais.
c'est incroyable de déférence, de manque d'indépendance. On a énormément progressé, énormément. Quand même, la difficulté aujourd'hui, c'est que c'est hyper compétitif comme marché, l'interview politique, parce que les médias sont infiniment plus concurrentiels et font tous de la politique.
Moi, je pensais à l'interview réaction à l'actualité du jour. Et ça, vous en pensez quoi? Ça, c'est pas très technique comme interview. Et ça, pour le coup, ça a été très, très, très courant dans les médias.
Mais ce qui est plus technique, c'est l'acteur politique.
C'est ça.
C'est pas voilà, donc on est obligé effectivement, et c'est tant mieux parce que moi j'adore ça par exemple. Je préfère 1000 fois interviewer un politique sur son dossier que sur les fameuses trucs politiques, politiciens de Jacques Esnoux. Oui, ce que je veux dire.
Très bien. On le salue, le monsieur. Merci beaucoup, Elisabeth Martichoux, à retrouver tous les jours à 8h30 dans la matinale de LCI. Bonjour, Ali Rebéi.
Bonjour, Sonia de Villers.
On va pas s'ennuyer ce week-end.
Non, on s'intéresse aujourd'hui au jardin, à la déco, à la cuisine et au voyage. À l'écoute de nos experts, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous évoquerons les jardins, les forêts qui ont souffert de la sécheresse et de la canicule. Nous parlerons de deux fruits de saison, la figue et le raisin. Zoom également sur les meubles et objets de déco vintage que l'on retrouve sur les brocantes en ligne 01 45 24 7000.